Chapitre 56. Écrin de verdure. Vue sur le golfe de Brigode. Jean-Luc Lavache, alias J.L. Traskman, habitait le quartier chic de Villeneuve-d'Ascq, à l'est de l'île. Sa villa de plein pied, complètement isolée, était protégée par un lourd portail en fer forgé. Paul chercha un moyen de prévenir l'homme de sa présence, mais il n'y avait pas d'interphone. Il refusa de faire demi-tour. Traskman était là, la voiture dans l'allée et la lumière à l'étage en témoignaient. Il enjamba l'obstacle, puis avança dans le jardin paysager. Il dut insister longuement, crier à plusieurs reprises « Gendarmerie, ouvrez, s'il vous plaît !» pour qu'on daigne venir à sa rencontre. Malgré le soin évident qu'il semblait porter à sa personne, Traskman lui parut beaucoup plus âgé qu'il ne l'imaginait. Courts cheveux clairsemés, blond gris, peau du cou flasque sous un menton imberbe. Son teint harmonieusement hâlé jusqu'au bout des doigts laissait supposer soit des vacances récentes, soit des séances de bronzage. Paul détesta la façon dont il le regarda de haut en bas, avec un air de supériorité. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Paul lui montra sa carte de gendarmerie. « Capitaine Lacroix, officier de police judiciaire, brigade territoriale de Saga, en Savoie. J'aimerais vous poser des questions au sujet de votre père. » Jean-Luc Traskman observa le livre que Paul tenait, accompagné d'une pochette à élastique. Puis il plaça une main sur le chambranle de la porte de façon à faire barrage. Ses lèvres sourlèrent, dévoilant des dents d'un blanc éclatant. « Tout ce qui devait être dit a été dit au sujet de mon père. Pour les questions, il y a les avocats, ou même vos collègues de la police qui se sont occupés de son suicide. Je ne veux parler ni aux avocats ni à la police. Je veux parler au fils. » J'ai insisté auprès de mon juge d'instruction pour une audition libre, sans contrainte pour vous, mais si vous le souhaitez, alors on va faire ça dans les règles. Je demande au juge de vous convoquer dans nos locaux à 700 km d'ici. » Traskman manipula son téléphone, en pleine hésitation, puis finit par s'écarter sans un mot et accompagna son hôte jusqu'au gigantesque salon. Cuisine à l'américaine, parquet flottant chauffé, large baie vitrée. Paul lorgna vers la bibliothèque où le nom Caleb Traskman s'affichait à toutes les sauces, avec des titres dans toutes les langues. Le propriétaire l'invita à s'asseoir sans lui proposer à boire. « Si vous pouviez faire vite. Pour tout vous dire, je suis dans la phase de rédaction de mon prochain roman. » Paul s'était installé sur le rebord d'un fauteuil penché vers l'avant. « Une histoire de meurtre ou d'enlèvement, comme votre paternel? C'est une piètre façon de résumer le genre policier. » Je dois avouer que je ne suis pas un fin connaisseur. Mais venons-en à ce qui m'amène ici. Tout d'abord, Saga vous évoque-t-il quelque chose? Absolument pas. Paul plaqua sa carte de gendarmerie sur la table en forme de plume et mit son index dessus. Vous n'avez rien perdu. Saga est une petite ville de montagne qui n'a rien de glamour, croyez-moi. Mais c'est là que, durant l'été 2007, votre père a probablement passé plusieurs semaines à l'abri des regards. Il y est venu soit pour s'inspirer, soit pour écrire Sonon. Sonon, Saga, des palindromes, comme dans le manuscrit inachevé, vous voyez l'idée? Vous étiez au courant de cette longue virée? Paul guettait la moindre réaction de son interlocuteur, qui ne montrait aucun signe de nervosité particulier. Pas du tout. Je suis parti vivre à Paris au début des années 2000 pour bosser dans l'audiovisuel. On ne se voyait presque plus avec mon père, nos rapports étaient plutôt tendus. Il n'avait que 17 ans quand je suis né. À cet âge-là, on n'est certainement pas prêt à être père. Il m'en a toujours voulu, inconsciemment, de lui avoir gâché sa jeunesse. Il avait presque craché ce dernier mot. Du temps où je vivais encore à la maison, ça lui arrivait de disparaître des semaines pour ses recherches ou ses repérages, sans dire où il allait. Tantôt à crapahuter avec les flics à la capitale, tantôt au fin fond de la Bretagne à visiter un vieux phare. Alors cette ville-là, Saga, peut-être qu'il y est allé, mais dans le fond, je n'en sais rien. Votre mère, elle savait, elle? Il secoua la tête, les lèvres pincées d'agacement. Vous n'avez pas l'air très renseigné. Ma mère a été internée en 2002 à l'unité pour malades difficiles de Châlons-en-Champagne parce que, à partir de l'âge de 40 ans, suite à une interminable période de repli sur soi et de dépression successive, elle s'est mise à s'arracher les cheveux et la peau au point de mettre sa vie en danger. Rien n'a pu la guérir, Elle a passé les 15 dernières années de sa vie quasiment attachée en permanence ou dans une camisole. Le seul moyen d'éviter les mutilations. Et si vous cherchez des explications à ça, sachez qu'il n'y en a pas. Elle était folle, purement et simplement folle, dans le sens le plus trivial du terme. Paul fronça les sourcils. Pourtant, dans la préface du manuscrit inachevé, vous dites que je n'ai pas menti. C'est juste une question de tournure de phrase. Dans la préface, j'ai écrit... Il s'empara du livre. Sûrement l'avait-il écrit seul dans son immense villa, face à la mer, lors des 10 mois durant lesquels ma mère mourait à petit feu dans un hôpital rongé par Alzheimer. L'un n'empêche pas l'autre. Ma mère est bien morte d'Alzheimer à l'hôpital. Une aubaine en définitive pour une personne comme elle. Elle nous avait oubliés, mais elle avait aussi oublié de se mutiler. Sa perte de mémoire, ça a été sa liberté, finalement. Une personne comme elle. Il parlait avec la compassion d'un proctologue. En tout cas, ce type avait eu une drôle de vie. Une mère folle emportée par la maladie, un père suicidé et lui, seul dans une baraque qui devait flirter avec le million d'euros. Votre père était donc l'unique habitant de la villa de la baie de Loti depuis 2002. « Brillante déduction, » répondit-il non sans ironie. Mais sachez que même entouré de sa famille ou de la multitude de fouilles-merdes qui cherchaient juste à tirer profit de sa notoriété, mon père a toujours vécu en solitaire. Il ne supportait pas le monde. Sa plus profonde angoisse a toujours été de ne plus réussir à créer, et il disait que seul l'isolement était capable de le soulager. Enfin, ce genre de choses. Mais je crois que vous ne m'avez toujours pas donné la raison de votre présence ici. Malgré les spots, le salon était plongé dans la pénombre. Paul lui tendit une photo de Julie extraite du dossier d'instruction. Elle portait le pendentif. Elle. Jean-Luc Traskman l'observa avec attention tandis que Paul l'observait lui. Le regard de l'écrivain resta neutre. Vous n'avez jamais vu ?
Jamais.
Qui est-ce ? Il n'avait pas l'air de mentir. Paul entreprit d'entrer dans le vif du sujet. L'heure de l'électrochoc était venue. Elle s'appelle Julie Moscato. Elle a disparu le 8 mars 2008 lors d'une sortie à vélo dans la forêt aux alentours de Saga. Des éléments concrets nous portent aujourd'hui, 12 ans après, à envisager l'implication de votre père dans son kidnapping. L'homme en face de lui se leva brusquement.
Un kidnapping ? Mon père ? Qu'est-ce que vous me racontez ?
Le fameux été 2007, votre père a entretenu une liaison secrète avec cette jeune fille de 17 ans, dans un chalet perdu sur les hauteurs de Saga. Il a voulu la ramener dans le nord, elle a refusé. 6 mois plus tard, elle se volatilisait, embarquée de force dans une Ford grise. Nous avons de très fortes raisons de penser que des individus ont agi sur ordre de votre père. Jean-Luc Traskman s'était appuyé sur le rebord du fauteuil visiblement abattu. Paul s'empara du manuscrit inachevé. Tout est dans son dernier livre. Les noms des personnages, les événements, les jeux de mots. Tout nous ramène à Saga et à Julie Moscato. Ces pages, les plus noires qu'il ait écrites selon vos propres mots, ce sont ses confessions. Non, non. Vous n'avez pas le droit de débarquer comme ça et de me balancer des conneries pareilles à la figure. Surtout maintenant que mon père est mort. Tout ça, ce n'est que de la fiction. Des horreurs, oui, sans doute. Mais bon sang, ce n'est pas la réalité. Une histoire dans un livre ne prouve rien. Sauf quand il y a autant d'allusions, de points communs avec un dossier criminel.
On ne vous a jamais dit que les auteurs de fiction s'inspiraient des faits divers,
qu'ils avaient leurs sources dans la police, dans les palais de justice, et qu'ils racontaient parfois des histoires encore plus vraies que nature. Il se mit à aller et venir avec le pas déterminé d'un avocat en pleine plaidoirie.
Mon père fouinait dans les archives de la police, écumait les musées de médecine, les morgues, et si on lui avait demandé de coucher avec un mort pour savoir à quelle vitesse le corps se refroidissait, croyez-moi, il l'aurait fait. Il était obsédé par ça, les ténèbres, le crime, la façon dont un cadavre se décompose. C'était sa cam, vous comprenez ? Alors ce roman, ne me dites pas qu'il l'incrimine.
Paul ne pouvait pas lui parler du contenu du carnet de Julie, au risque de devoir le faire figurer au dossier plus tard et de les compromettre, Gabriel et lui. Mais il détenait d'autres éléments, tout aussi convaincants. Il sortit un mince paquet de feuilles de sa pochette à élastique. Ce sont des photocopies. Les pages originales sont entre les mains de mon équipe.
Regardez. » Traskman s'empara des feuilles d'un geste rageur, mais au fil de sa lecture, la stupeur se peignit sur son visage.
L'écriture de mon père, c'est la fin originale du manuscrit inachevé.
Incrédule, il s'attarda sur la toute dernière page. Il découvrait un trésor sans oser y croire. Ses prunelles claires couraient sur les lignes, bondissaient de paragraphe en paragraphe. Paul devinait l'excitation qu'il devait ressentir et qui venait se mélanger au choc des dernières révélations. Une fois l'euphorie passée, son visage s'obscurcit de nouveau.
« Ces pages, où les avez-vous trouvées ?»«
À Saga, dans le chalet perdu dans la montagne où votre père a passé du temps. Elles étaient entre les mains d'un individu au courant de sa relation secrète et de son implication dans l'enlèvement de Julie Moscato. Il voulait nous envoyer le feuillet qui clôt le roman. Comme vous le voyez, il avait entouré des lettres qui, mises bout à bout, forment la phrase « Ce livre apporte la réponse à toutes vos questions ». Il lui montra les copies des autres messages de David Esquimet. Cela fait plus de 3 ans que l'individu en question nous fait parvenir des courriers anonymes dans lesquels il prétend savoir ce qui s'est passé. Ce que vous avez devant vous, ce sont des pages extraites de romans policiers qui révélaient des phrases, dont le but était de mener à un seul homme, Caleb Traskman. Le fils n'arrivait plus à cacher son émotion. Ses doigts tremblants faisaient frissonner les feuilles entre ses mains. Il les reposa sur la table, les yeux égarés dans le lointain. Il s'assit, une dizaine de secondes à peine, puis fixa Paul, tel un malade émergeant d'une anesthésie.
« Je reviens. »
Il se leva, disparut au bout d'un couloir. Paul en profita pour observer les lieux. Pas de photos de famille. Et une décoration minimaliste qui se résumait au livre de son père qu'il n'aimait a priori pas beaucoup. Une minute plus tard, Jean-Luc Traskman réapparut avec, lui aussi, une pochette à élastique entre les mains. Il l'attendit à Paul et alla se rasseoir en face de lui.
« Allez-y, ouvrez. »
Le gendarme écarta le rabat cartonné et découvrit un ensemble d'enveloppes au nom de l'auteur reconnu, dont la partie haute avait été éventrée au coupe-papier. Il s'empara de la première d'entre elles et en sortit son contenu. L'impression d'un film qui se répétait. Dans le feu de son regard, des pages de romans arrachées, des lettres entourées à l'encre bleue. Caleb Traskman avait, lui aussi, reçu des lettres anonymes.